Samuel Johnson, Histoire de Rasselas, prince d'Abyssinie, chapitre 46 à 49. Chapitre 46, la princesse et Pekua font une visite à l'astronome. L'astronome d'Imlac ne cessait d'occuper les entretiens de la princesse et de Pekua. Elles en vinrent à ne pouvoir résister au désir de voir de près ce caractère si aimable et si étrange, et elles chargèrent Imlac de leur ménager une entrevue. Il n'était pas facile d'y réussir. Le philosophe ne recevait jamais de visite de femmes, quoiqu'il vécût au milieu d'une ville où se trouvaient beaucoup d'Européens qui suivaient les coutumes de leur pays et où les étrangers qui affluaient des autres parties du monde jouissaient de toute la liberté de l'Europe. Il n'y avait pas pourtant à refuser ces dames, et l'on s'évertua à trouver moyen de les satisfaire. L'idée s'offrit d'abord de les faire passer pour des étrangères dans le besoin, car le sage était toujours accessible à l'infortune. Mais après réflexion, l'expédient fut reconnu peu efficace pour entamer une liaison. On n'obtiendrait sans doute qu'une courte audience, et la discrétion défendait de revenir souvent à la charge. « Cela est vrai, » dit Rasselas, « mais j'ai encore une plus forte objection contre ce projet de déguisement. C'est, selon moi, un crime de lèse-majesté humaine que de se servir des vertus d'un homme pour s'en faire un moyen de le tromper, quelque faible que puisse être l'intérêt dans lequel on veut le surprendre. Toute ruse affaiblit la confiance et glace l'affection au fond du cœur. Lorsque le sage reconnaîtra que vous n'êtes pas ce que vous paraissez être, il éprouvera ce ressentiment naturel à un homme supérieur quand il se voit pris pour dupe par des esprits au-dessous du sien, et peut-être la défiance dont il ne pourra plus désormais se défendre va tarir chez lui la source des conseils et de la charité. Comment rendrez-vous alors ces bienfaits aux infortunés et la paix à son cœur ? Cette observation resta sans réponse, et Imlac eut l'espoir de voir oublier bientôt un moment de curiosité. Mais le jour suivant, Pekua lui dit qu'elle venait de trouver un honnête prétexte de visiter l'astronome. C'était de solliciter la permission de continuer sous lui les études auxquelles l'arabe l'avait initiée. Elle motiverait la présence de la princesse sur le besoin d'avoir une compagne dans ses études, ou sur les convenances qui ne permettaient pas à une femme de se présenter seule. « Je crains, » dit Imlac, « qu'il ne soit bientôt fatigué de votre compagnie. » Les hommes de haute science n'aiment pas revenir sur les éléments, et je crains même que les éléments, comme il vous les présentera, avec leur enchaînement de déductions, leur cortège de réflexions profondes, ne passent un peu votre portée. « Ceci me regarde, » dit Pekua, « je ne vous demande que de m'introduire. Je suis peut-être plus habile que vous ne l'imaginez, et en prenant soin de conformer toujours mon opinion à la sienne, je saurais bien faire paraître mon savoir plus grand qu'il ne l'est en effet. » Cette détermination prise, on dit à l'astronome qu'une étrangère de distinction, voyageant pour s'instruire, avait entendu parler de son mérite et désirait prendre de ses leçons. La singularité de la demande excita sa surprise et sa curiosité. Il se décida promptement à les recevoir et ce ne fut pas sans impatience qu'il attendit le lendemain. Les dames se couvrirent de vêtements magnifiques. Imlac les présenta à l'astronome, qui fut charmé de se voir recherché avec tant de respect par des personnes dont l'extérieur était si brillant. Dans l'échange des premières politesses, il fut timide et embarrassé. Mais lorsque la conversation devint régulière, il reprit sa supériorité et justifia l'opinion qu'Imlac avait donnée de lui. Il demanda à Pekua qui pouvait lui avoir inspiré ce goût de l'astronomie. Elle le fit le récit de son aventure, de la pyramide et de son séjour dans l'île de l'Arabe. Elle s'exprimait avec aisance et agrément, et sa conversation lui gagna le cœur de l'astronome. On parla ensuite d'astronomie. Pekua exposa ce qu'elle en savait. Il la regarda comme un prodige de génie et la supplia de ne pas abandonner une étude qu'elle avait si heureusement commencée. Elles revinrent et trouvèrent chaque fois meilleur accueil. Le philosophe cherchait à les intéresser pour prolonger le temps de leur visite, car il lui semblait que sa pensée devenait plus brillante en leur compagnie. Les nuages de son imagination inquiète se dissipaient insensiblement par les efforts qu'il faisait pour captiver leur attention, et il s'affligeait de leur départ, qui le rendait à son ancienne occupation de régler les saisons. la princesse et sa favorite l'écoutaient depuis plusieurs mois, avec une oreille attentive, et n'avaient pu saisir un seul mot qui fît juger s'il conservait ou non l'idée de sa mission surnaturelle. Elles avaient souvent cherché à tirer de lui un aveu, mais il éludait adroitement toutes les attaques, et de quelque manière qu'on le pressât, il leur donnait toujours le change en portant la conversation sur un autre sujet. La familiarité s'établit et elles l'invitèrent souvent à venir chez Imlac, où il était reçu avec beaucoup de témoignages de respect. Les plaisirs du monde sublunaire lui firent insensiblement sentir leur charme. Il venait de bonne heure, se retirait tard, s'appliquait à se rendre agréable par son empressement et sa complaisance, cherchait à inspirer aux dames le goût de nouveaux arts qui rendissent alors sa présence utile, et quand elles faisaient quelques promenades dans un but de curiosité ou d'étude, il demandait à les accompagner. La longue expérience de son intégrité et de sa sagesse persuada au prince et à sa sœur qu'ils pouvaient se confier à lui sans danger, et de crainte qu'il ne tirât quelque fausse espérance des politesses qu'il recevait, ils lui découvrirent leur naissance, ainsi que les motifs de leur voyage, et lui demandèrent son avis sur le choix d'un genre de vie. « Entre les conditions diverses que le monde présente à vos yeux, dit le sage, je ne saurais dire celle qu'il faut préférer. Je puis dire seulement que j'ai mal choisi moi-même. J'ai consacré à l'étude un temps qui s'est écoulé sans aucun profit pour mon expérience. J'ai acquis des sciences dont la plupart n'ont que des rapports éloignés aux besoins de l'espèce humaine. J'ai acheté l'instruction au prix de toutes les jouissances de la vie. Je me suis soustrait au commerce élégant de l'amitié des femmes, au charme des affections domestiques. Si j'ai obtenu des prérogatives qui m'ont mis au-dessus de mes rivaux, je n'en ai jamais joui sans crainte, sans souci, sans scrupule, et ces prérogatives même, depuis qu'un peu plus de relation avec le monde a modifié ma manière de voir, je commence à en mettre en question la réalité. Lorsque je m'abandonne pendant quelques jours à d'agréables distractions, je suis tenté de croire que tous mes travaux n'ont abouti qu'à l'erreur et que ma vie n'a été qu'une longue et inutile souffrance. » Imlac fut chargé de voir que le bon sens du sage perçait enfin les brouillards de son imagination. Il résolut de le tenir occupé loin de ses planètes jusqu'à ce qu'il eût oublié sa mission surnaturelle et que la raison eût repris en lui tout son empire. Dès ce moment, l'astronome fut admis dans leur intimité. Il prenait part à tous leurs projets, à tous leurs plaisirs. Le respect le rendait attentif et l'activité de Rasselas lui laissait d'ailleurs bien peu de temps libre. Pas un moment qui ne fût rempli, car le jour se passait à recueillir des matériaux pour la conversation du soir et la soirée ne se terminait pas sans projet pour le lendemain. Le sage confia à Imlac que depuis qu'il se mêlait au gai tourbillon du monde et qu'une succession de plaisirs variés occupait ses loisirs, la conscience de son autorité sur les astres s'affaiblissait insensiblement. Il avoua qu'il commençait à perdre de sa confiance dans une conviction qu'il ne pouvait faire partager à personne et qui était susceptible de s'altérer en lui par des causes où la raison n'avait point de part. « Si par hasard je reste seul quelques heures, dit-il, cette vieille persuasion vient de nouveau fondre sur mon esprit, mais il suffit pour le délivrer d'un moment de conversation avec le prince ou de la présence soudaine de Pekua. Je suis comme un homme obsédé par des spectres qui se trouve tout à coup à l'aise par l'arrivée d'un flambeau et qui s'étonne des alarmes dont l'assiégeait l'obscurité. Que sa lampe s'éteigne, il va éprouver de nouveau ses terreurs qu'il est sûr de voir s'évanouir encore à l'approche de la lumière. Ce n'est pas que je ne me reproche quelquefois comme un crime ce repos volontaire qui me fait négliger, oublier même la grande charge confiée à mes soins. Si je ferme les yeux par faiblesse sur une erreur que je reconnais, ou si dans une question douteuse d'une si haute importance, je fonde ma détermination sur mon bien-être personnel, de quel forfait ne suis-je pas coupable ? Il n'y a pas de maladie d'esprit, dit Imlac, dont la guérison soit plus difficile que celle qui se complique avec la crainte de faire mal. C'est alors une réaction continuelle de la conscience sur l'imagination et de l'imagination sur la conscience. Elles se produisent avec une succession si mobile et si rapide que les illusions de l'une ne se distinguent plus des inspirations de l'autre. lorsque l'esprit se nourrit d'images que réprouvent la morale et la religion, il les écarte facilement dès qu'elles lui deviennent pénibles. Mais lorsque des idées affligeantes se présentent sous l'apparence du devoir, elles règnent sans obstacle sur la pensée, parce qu'on se ferait scrupule de les bannir. C'est pour cette raison que la superstition conduit souvent à la mélancolie et que la mélancolie est presque toujours mêlée de superstition. Mais ne souffrez pas qu'une appréhension vaine domine ainsi votre haute raison. Il n'y a négligence qu'en tant qu'il y a devoir. Ce devoir, examinez sans préoccupation ce qu'il est réellement. Vous trouverez que c'est bien peu de choses, et chaque jour il vous paraîtra moins encore. Ouvrez votre âme à l'influence de la lumière qui vient l'éclairer par intervalles. Quand vous êtes tourmenté par ces scrupules dont vous reconnaissez la vanité dans les moments lucides, ne vous amusez pas à capituler avec l'ennemi. Créez-vous une affaire. Volez près de Pécoua, qu'une pensée domine chez vous toutes les autres. C'est que vous n'êtes qu'un atome dans l'immensité du monde et qu'il ne se trouve en vous rien d'assez vertueux ou d'assez coupable pour vous marquer par exception comme l'objet de faveurs ou d'afflictions surnaturelles. Chapitre 47. Arrivée du prince. Nouveau sujet de conversation. Tout ce que vous dites, reprit l'astronome, je l'ai souvent pensé, mais ma raison, si longtemps obsédée, enchaînée par une idée fixe et inexpugnable, n'osait se fier à ses propres forces. Je sens aujourd'hui combien j'ai compromis mon repos par le secret même que j'ai gardé sur cette fatale chimère. Mais la mélancolie n'est pas expansive. Je n'avais d'ailleurs trouvé personne avant vous à qui faire part de mes chagrins, quand bien même par là j'aurais eu la certitude d'y porter remède. Je me réjouis de voir maintenant mes sentiments confirmés par ceux d'un homme qui, comme vous, se trompe si rarement et qui jamais ne cherche à tromper les autres. J'espère que le temps et la distraction dissiperont le nuage qui m'a si longtemps entouré et que je passerai en paix le reste de mes jours. Espérez, dit Imlac, dans votre science et dans votre vertu, vous en avez le droit. À ce moment, Raslas entra avec la princesse et Pécoua. Il demanda si l'on avait imaginé une occupation pour le lendemain. « Voilà la vie, dit Nikaya. On est heureux que par la perspective du changement. Le changement lui-même n'est rien, car une fois opéré, on soupire après un changement nouveau. Mais le monde n'est pas encore épuisé. Voyons demain quelque chose de neuf. » La variété, dit Raslas, est si nécessaire au contentement de l'homme que la vallée du bonheur m'inspirait du dégoût par le retour continuel des mêmes jouissances. Mais je ne pus me défendre de condamner mon impatience quand je vis les religieux de Saint-Antoine résignés sans se plaindre à une succession uniforme de privations et non pas de plaisirs. Ces moines, dit Imlac, sont moins malheureux dans le silence de leur cloître qu'un prince d'Abyssinie dans sa délicieuse prison. Ils ne font rien sans une cause d'action suffisante et raisonnée. Leur travail fournit aux besoins de leur vie, il est donc indispensable. Et porte avec lui sa récompense. Leur dévotion les prépare à une autre existence. Elle leur montre ce but qui se rapproche sans cesse et les met en état de l'atteindre. Tout leur temps est régulièrement distribué. À un devoir succède un autre devoir. Pas un moment dont l'emploi soit laissé au caprice ou qui se perde dans le désœuvrement. Chaque heure a sa tâche déterminée et ils chérissent leurs peines parce qu'ils les considèrent comme des actes de piété qui hâtent leur progrès journalier vers une félicité sans fin. Pensez-vous, dit Nekaya, que la vie monastique soit un état plus sain et moins imparfait que tout autre? L'homme ne peut-il pas espérer également un bonheur futur en se livrant au commerce de ses semblables, en secourant l'infortune par ses charités, en instruisant l'ignorance par ses talents, en contribuant au bien-être de la société par le tribut de son industrie? Dût-il omettre quelques-unes des mortifications que l'on pratique dans le cloître? Dût-il même se permettre quelques plaisirs innocents que son état placerait à sa portée? Cette question, dit Imlac, est depuis longtemps une source de doute pour la sagesse et de scrupules pour la vertu. J'hésite entre les deux parties. Celui qui vit bien dans le monde est plus vertueux que celui qui vit mal dans un monastère. Mais peut-être tout homme n'est pas capable de résister aux tentations de la société. Alors celui qui ne peut espérer la victoire fait bien de songer à la retraite. Les uns manquent de puissance pour faire le bien ou de force pour résister au mal. D'autres, en plus grand nombre, sont fatigués d'un combat perpétuel contre l'adversité et cherchent à échapper aux passions dont ils ont été longtemps le jouet. L'âge et les infirmités obligent bien des gens à se soustraire aux devoirs pénibles de la société. Un monastère est un abri sûr pour les esprits faibles et les consciences timorées. Les hommes, fatigués du tumulte, y trouvent le repos, et le repentir y peut méditer en paix. Il y a dans ces retraites de la prière et de la contemplation quelque chose qui convient si singulièrement à l'esprit de l'homme qu'il en est à peine un peut-être qui n'ait formé le plan d'une association peu nombreuse pour y finir ses jours, entouré de personnes graves comme lui et livré exclusivement aux exercices de la piété. « Tel a souvent été mon désir, » dit Pekua, « et j'ai entendu la princesse assurer qu'elle ne voulait pas mourir au milieu du monde. La liberté d'user d'innocents plaisirs ne doit pas être mise en question, » continua Imlac, « mais il reste encore à examiner quels sont les plaisirs innocents. Quel que soit le plaisir dont Nekaya se forme l'idée, le mal ne sera pas dans l'acte même, mais dans les conséquences. Un plaisir innocent en lui-même peut devenir nuisible en nous attachant à la vie que nous savons être un état de passage, un temps d'épreuve, et en éloignant nos pensées de cet état futur dont chaque instant nous fait voir le commencement plus proche et dont aucune durée ne nous montrera la fin. Les mortifications n'ont rien de vertueux en elles-mêmes et n'ont d'autre avantage que de nous délivrer des séductions des sens. Dans l'état de perfection à venir auquel nous aspirons tous, le plaisir sera sans danger et la sécurité sans borne. » La princesse garda le silence, et Rasselas, se tournant vers l'astronome, lui demanda s'il ne pouvait pas retarder la retraite de sa sœur en lui montrant quelque chose qu'elle n'eût pas encore vu. « Votre curiosité, dit le sage, s'est portée sur tant d'objets et votre amour de la science a été si actif que les nouveautés ne sont plus maintenant faciles à trouver. Mais ce que les vivants ne peuvent plus nous procurer, les morts pourront vous l'offrir. Parmi les merveilles de cette contrée, on compte les catacombes ou anciens dépôts dans lesquels on plaçait les corps des générations antiques et où la vertu des parfums avec lesquels on les a embaumés les rend encore aujourd'hui exemple de la corruption. Je ne sais pas, dit Rasselas, quel plaisir nous aurons à voir des catacombes, mais puisqu'il n'y a pas autre chose à nous montrer, je les verrai et je placerai cette visite au nombre de tant d'autres choses que j'ai faites uniquement pour ne pas rester à rien faire. Ils louèrent une garde de plusieurs cavaliers et, le lendemain, ils se rendirent aux catacombes. Quand ils furent prêts de descendre dans les caves sépulcrales, « Pekua, dit la princesse, nous allons entrer dans l'habitation de la mort. Je sais que votre désir est de ne pas y pénétrer, du moins que je vous retrouve saine et sauve à mon retour. »« Non, je ne veux pas rester en arrière, » répondit Pekua. « Je descendrai en me plaçant entre vous et le prince. » Ils descendirent alors tous ensemble et parcoururent avec étonnement les détours des passages souterrains où les corps étaient rangés à droite et à gauche. Chapitre 48. Réflexion d'Imlac sur la nature de l'âme. « Quelle raison, dit le prince, peut-on assigner à l'usage adopté par les Égyptiens de conserver à tant de frais ces restes mortels que quelques nations font dévorer par le feu ? Tandis que d'autres les laissent se confondre avec la poussière, mais que toute s'accorde à éloigner de leurs yeux aussitôt que les rites funéraires ont pu décemment être accomplis. On ne connaît guère l'origine des anciennes coutumes, dit Imlac, car l'usage subsiste d'ordinaire quand la cause a cessé. De superstitieuses cérémonies forment un champ stérile pour les conjectures, et la raison ne peut expliquer ce qui n'a pas la raison pour principe. Quant à moi, je crois depuis longtemps que l'invention d'embaumer les cadavres est née d'un sentiment particulier d'affection pour les dépouilles d'un parent ou d'un ami. Et ce qui me confirme dans cette opinion, c'est qu'il paraît impossible qu'une telle pratique ait été générale. Si l'on avait embaumé tous les corps sans distinction, les dépôts mortuaires auraient fini par occuper plus d'espace que les habitations des vivants. Je suppose que la richesse et le mérite jouissaient seuls du privilège d'être préservés de la corruption et que le reste subissait la loi naturelle de la décomposition. Cependant, l'opinion commune est que les Égyptiens croyaient l'âme impérissable jusqu'au moment de la dissolution du corps et qu'ils s'efforçaient par ce moyen d'éluder le trépas. Est-il possible, dit Nekaya, que les sages égyptiens se soient fait de l'âme une idée si grossière? Une fois que l'âme avait survécu à la séparation d'avec le corps, qu'avait-elle à gagner ou à perdre, quel que fût le sort du cadavre? Les Égyptiens, dit l'astronome, étaient dans les ténèbres du paganisme, où ne faisaient qu'entrevoir l'aurore de la philosophie. L'erreur devait être leur partage. Avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui de s'éclairer, on en est encore à disputer sur la nature de l'âme. Il en est qui soutiennent qu'elle pourrait être matérielle, sans douter pour cela de son immortalité. On a en effet avancé, dit Imlac, que l'âme était matérielle, mais j'ai peine à croire qu'une telle idée soit jamais venue à un esprit qui sait raisonner, car toutes les déductions de la logique aboutissent à établir que l'intelligence est immatérielle, et toutes les notions, soit acquises par les sens, soit dues aux investigations de la science, concourent à prouver que la matière n'a pas la conscience d'elle-même. On n'a jamais supposé que la pensée fût inhérente à la matière, ni que chaque molécule de matière fût un être pensant. Cependant, si une molécule quelconque de matière ne pense pas, à quelle autre molécule pourrait-on attribuer la pensée? La matière ne diffère de la matière que par la forme, la densité, le volume, le mouvement et la direction du mouvement. Auquel de ces accidents simples ou combinés attachera-t-on la conscience? Qu'une substance soit ronde ou carrée, solide ou fluide, grande ou petite, mue avec lenteur ou avec célérité, dans un sens ou dans un autre, ce sont autant de modes de l'existence matérielle, tous également étrangers à l'essence de la pensée. Si la matière existe sans la pensée, elle ne peut devenir intelligente que par quelques modifications nouvelles. Mais de toutes les modifications dont elle est susceptible, aucune n'a rien de commun avec les facultés intellectuelles. Mais, dit l'astronome, les matérialistes soutiennent que la matière peut avoir des qualités qui nous soient inconnues. Se déterminer contre ce qu'on sait, répondit Imlac, parce qu'il peut exister quelque chose qu'on ne sait pas, opposer la possibilité hypothétique à la certitude palpable est une manière de raisonner inadmissible. Tout ce que nous savons de la matière, c'est qu'elle est inerte, privée de sentiments et de vie, et si nous ne pouvons opposer à cette conviction que des conjectures sur ce que nous ne savons pas, l'évidence est aussi complète qu'elle peut l'être dans les jugements humains. Si l'inconnu peut prévaloir sur le connu, aucun être sans la science universelle ne peut arriver à la certitude. Gardons-nous cependant, dit l'astronome, de la présomption de limiter le pouvoir du Créateur. Ce n'est pas limiter la toute-puissance, répondit le poète, que d'avancer qu'une chose est incompatible avec une autre, qu'une même proposition ne saurait être à la fois vraie et fausse, que le même nombre ne peut pas être à la fois pair et impair, que la pensée n'a pas pu être donnée à ce qui est incapable de penser. « Je ne vois pas, dit Nekaya, l'utilité de cette question. L'immatérialité de l'âme, qu'à mon avis vous avez suffisamment démontrée, suppose-t-elle nécessairement que l'âme est immortelle ?»« Nous n'avons sur l'immatérialité, dit Imlac, que des idées négatives et conséquemment obscures. Il semble que l'immatérialité implique une éternelle durée, comme une conséquence de son exemption de toute cause de dépérissement. Nul être ne meurt que par l'effet d'une dissolution de ce qui le compose, que par la séparation de ses parties. Nous ne concevons pas par quelle loi ce qui n'a pas de partie et conséquemment n'est pas susceptible de dissolution pourrait s'altérer ou se corrompre. Quant à moi, dit Rasselas, je ne puis concevoir un être sans étendue. Or, ce qui est étendu doit être composé de parties, et vous venez d'admettre que ce qui a des parties est périssable. « Examinez vos propres conceptions, répondit Imlac, et la difficulté deviendra moindre. Vous y trouverez substance sans étendue. Une forme idéale n'a pas moins de réalité que l'objet matériel qu'elle représente, et cependant, une forme idéale n'a pas d'étendue. Lorsque vous pensez à une pyramide, il n'est pas moins certain que votre esprit en possède l'idée, qu'il n'est certain que la pyramide elle-même existe. L'idée de cette pyramide occupe-t-elle plus d'espace que l'idée d'un grain de blé? L'une et l'autre de ces idées est-elle divisible? La nature de la cause est la même que celle de l'effet. La faculté qui pense est donc de la même nature que la pensée. C'est donc une faculté impassible et indivisible. Mais, dit Nekaya, l'être que je crains de nommer, l'être qui a fait l'âme, peut la détruire. Il le peut sans doute, reprit Imlac, puisque tout impérissable qu'elle est, c'est d'une essence supérieure qu'elle reçoit sa puissance de durée. La philosophie peut démontrer qu'il n'existe dans l'âme aucune cause inhérente de dépérissement, aucun principe de corruption, mais la philosophie s'arrête là. Celui qui a créé l'âme, la peut-il anéantir? Voilà ce que, dans notre humilité, nous ne pouvons apprendre que d'en haut. Il y eut alors un moment de silence et de recueillement. « Quittons, dit Rasselas, cette scène de néant. Quelle serait l'horreur de ces catacombes de la mort pour l'homme qui n'aurait pas la conscience de son immortalité, qui ne saurait pas que ce qui agit en lui continuera d'agir, que ce qui pense continuera de penser éternellement. Ces morts que nous voyons ici gisant devant nous, les sages, les puissants des temps passés, nous avertissent de la brièveté de notre état présent. Ils furent peut-être enlevés au moment où, comme nous, ils se tourmentaient pour le choix d'un genre de vie. « Ce choix de la vie, dit la princesse, a perdu pour moi beaucoup de son importance. Je ne veux plus penser qu'au choix d'une éternité. » Ils s'empressèrent de sortir des catacombes et sous la protection de leur escorte, ils revinrent au Caire. Chapitre 49 Conclusion qui ne conclut rien. On était au temps de l'inondation du Nil qui commença peu de jours après à s'élever. Ils se virent confinés chez eux. L'eau qui couvrait entièrement le pays ne leur permettait aucune excursion nouvelle. Mais ils s'étaient amplement pourvus de sujets de conversation. Ils s'amusèrent à comparer les différents genres de vie qu'ils avaient observés et les plans divers de félicité que chacun s'était fait. Pécoua ne trouvait rien de plus séduisant que le couvent de Saint-Antoine, où l'arabe l'avait rendu à la princesse. Son seul désir était de le remplir de filles pieuses et de devenir prieur de l'ordre. Lasse d'attente et de dégoût, elle ne soupirait qu'après un état qui pût fixer irrévocablement son sort. La princesse pensait que de toutes les choses d'ici-bas, la science était la meilleure. Elle désirait donc apprendre d'abord toutes les sciences, puis fonder un collège de savantes dont elle se réservait la présidence. Là, tour à tour, conversant avec les vieilles, instruisant les jeunes, elle partagerait son temps entre le soin d'acquérir la sagesse et celui de l'enseigner aux autres, heureuse de léguer ainsi à la génération future des modèles de prudence et de piété. Quant au prince, son ambition était d'avoir un petit royaume où il pût administrer la justice par lui-même et tout voir de ses propres yeux. Mais il éprouvait un embarras insurmontable pour fixer les limites de son empire, et il augmentait sans cesse le nombre de ses sujets. Enfin, Imlac et l'astronome ne voulaient que se laisser aller au courant de la vie, sans diriger leur course vers aucun point déterminé. Ils savaient bien que de tous ces souhaits, aucun ne pouvait être réalisé. Ils délibérèrent quelque temps sur ce qu'ils avaient à faire et résolurent, dès que l'inondation aurait cessé, de retourner en Abyssinie.